Quelle joie d'être ensemble. Mes amis, j'ai plus rien à vous dire, parce que pendant la prédication, ils ont fait tout mon message. On ne s'est pas concerté, mais on a commencé par Dieu nous donne de tressaillir de joie, puisque lui-même, c'est le Dieu de la joie. Et on a fini sur la croix, là, pendant la Sainte Cène, mais avant, on a chanté quelque chose, Dieu est fidèle. Ça, c'est la conclusion. J'aimerais simplement, je dirais, mettre en relief ce qui a été fait pendant ce temps de louange. Et pendant qu'on chantait ce « Tu es fidèle », j'avais cette pensée très forte à cœur qui vient de Dieu, en tout cas je pense, c'est que Dieu est en train de parler à plusieurs. Et il dit, je suis ton Dieu, et je suis fidèle. Et ce que j'attends de toi, c'est pas que tu fasses des efforts, mais que c'est que tu ouvres ton cœur et que tu me laisses te remplir de mon amour. Et ça, c'est quelque chose que j'avais très fort à cœur pendant ce temps de louange. Je suis le Dieu fidèle qui t'aime. Laisse-toi remplir de mon amour. Alors ce matin, le message que j'ai à vous donner, c'est un message qu'on n'entend pas trop dans les églises. Et pourtant, c'est un super message, quoi. C'est la joie de Dieu. Quels sont les fruits de la joie de Dieu? Dieu a envie que tu sois joyeux parce qu'il veut te communiquer sa joie. Amen. Quand je traverse une épreuve, franchement, je ne suis pas joyeux, hein. D'ailleurs, je croise ma femme dans le couloir, elle me dit « Oh là, ça va pas, toi !» Et elle sait de quoi elle parle. Mais Dieu n'a pas envie qu'on traîne notre misère. Dieu a envie de nous remplir de sa joie. Alors, je prends à témoin juste les fruits du Saint-Esprit qu'on trouve écrits dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'amour, de l'esprit plutôt. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, en premier. Et en deuxième, c'est étonnant. On n'aurait peut-être pas mis ça dans l'ordre, nous. C'est l'amour, c'est la joie. Amen. Après l'amour vient la joie. Pourquoi ? Parce que si on est rempli d'amour, il y a une telle délivrance en nous, il y a une telle plénitude qui vient, qu'il y a la joie qui déborde. Et puis la troisième chose, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous savez, ça a été le verset de ma conversion. Vous savez pourquoi? Parce que toutes ces choses qui sont écrites, je savais que j'en avais envie, je voulais les vivre, je voulais les recevoir, je voulais en être rempli, mais je ne les avais pas. J'avais pas l'amour, pourtant mes parents m'aimaient, ma famille m'aimait, j'étais un privilégié, j'ai jamais eu des parents durs, au contraire, ils étaient remplis d'amour, mais j'avais pas cet amour-là. La joie, je connaissais pas. Sauf une joie de l'ivresse, de l'alcool ou des drogues. Mais c'était pas une joie, parce que dès que l'ivresse partait ou les effets de drogue partaient, j'étais déprimé. La paix, ça j'avais vraiment envie. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, la maîtrise de moi, je connaissais pas. J'étais emporté à tout vent, n'importe où. Et j'en avais tellement envie. Et Dieu m'a rempli de ces choses-là. Alors, comment c'est possible? Il y a une exhortation que Jean-Baptiste nous a dit. Jésus a tressailli de joie. Il était joyeux. C'était un homme qui n'était pas spécifiquement religieux. C'était un homme qui vivait la plénitude de l'amour et de la communion avec son Père. Et ça lui apportait la joie. Et un peu plus tard, l'apôtre Paul, il est très clair dans ses écrits, dans ses épîtres, et il nous dit une exhortation, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. » Et ça, nous, on est les champions en France, on est les champions de l'inquiétude. Il n'y a qu'à ouvrir la télévision aux 20h ou à 13h. Si vous n'avez pas de sujet d'inquiétude, d'un seul coup, les journalistes, ils vous en donnent. Oui, l'économie remonte, mais l'eau est polluée, ça va devenir plus cher. L'électricité, c'est pareil. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Il y a la guerre en Europe, etc. Bref, vous ressortez du 20h ou du 13h, vous êtes complètement déprimé. Et si vous n'aviez pas pensé encore un truc, ah bah oui, le prix du café a augmenté ou je ne sais pas quoi, enfin bref, vous apprenez toujours quelque chose qui vous inquiète. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit ? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment ? Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez concevoir, va bannir la crainte parce que cette paix, elle va vous donner une assurance pleine et entière. Et la paix de Jésus, elle va réjouir vos cœurs. Vous savez, une fois, quand je me suis converti, je vous ai raconté plusieurs fois, je m'excuse pour ceux qui ont entendu, Dieu m'a parlé sur des choses que j'avais volées dans ma vie. Et il m'a dit, il faut que tu ailles restituer. Alors ça, je me suis dit, oh, ça ne vient pas de Dieu, ça. Parce que Dieu, il a pris mon passé à la croix, il a pris mes péchés à la croix, il m'en a délivré. Et puis la pensée, elle a continué en moi et dit, oui, tu es délivré, mais rien ne t'empêche maintenant de te repentir, c'est-à-dire de restituer, de marcher dans le chemin inverse. Et alors moi, je savais tout ce que j'avais piqué. Et alors là, la liste est venue d'une manière incroyable dans ma mémoire et j'ai commencé à m'inquiéter parce que je devais avoir un casier judiciaire vierge pour entrer dans une école, et puis ça allait briser mon avenir, et puis qu'est-ce qui allait se passer si j'allais dans les magasins, si j'allais chez mon ancien employeur, parce que j'avais travaillé à Roissy en France, donc sur un aéroport, et là, je pouvais avoir affaire avec la douane et des choses comme ça. Et j'ai dit, ben Dieu, si c'est vraiment toi qui me parles, donne-moi une parole dans la Bible. Alors j'ai pris la Bible, j'ai ouvert au hasard, et puis j'ai rien trouvé. Et vous savez, quand on cherche pour rien trouver, on ne trouve rien. Mais quand on cherche pour trouver vraiment, le Seigneur se manifeste. Et alors, j'ai été trouver mon papa, qui était chrétien. Je lui ai dit, « Bon, papa, est-ce que tu pourrais pas prier pour moi ? Je suis dans la difficulté, j'ai des questions. » Alors, il a prié pour moi. Et puis, j'ai commencé à fouiller la Bible, à lire régulièrement. Et je suis tombé sur un passage où il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait volé des gens. Et que comme Jésus était venu lui rendre visite, il changeait de vie. Et il disait, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que je lui ai volé. » Alors, vous imaginez le tiroir caisse, comment ça a fonctionné chez moi. 4 fois, Seigneur, s'il te plaît, juste une fois. Et là, Dieu m'a conduit. Dans le premier magasin, j'avais volé, je ne sais plus, un rasoir. Et je viens trouver la vendeuse avec le rasoir, je pose sur le comptoir, j'ai dit, je m'excuse, j'ai volé ce rasoir, je viens pour le payer. Et là, je ne sais pas ce qu'a pris la voleuse, Elle a eu peur. Elle m'a attrapé par le bras. C'était un petit bout de femme, pas très grande. Et puis elle m'a attrapé là, puis elle a dit « Joseph, Joseph, viens vite, j'en ai attrapé un !» Alors tout le monde dans le magasin s'est tourné. Moi, j'étais rouge comme une tomate. Je ne savais plus où me mettre. Et puis le directeur est arrivé, le directeur du magasin, et puis il a dit « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Monsieur, j'ai attrapé un voleur !» Alors il me regarde, puis il me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « Ben oui, je vous ai volé il y a 2 ans ce rasoir, et je venais le rapporter pour le payer. » Ah, il dit « Bon, ben rentrez dans mon bureau. » Et puis je suis rentré dans le bureau de ce directeur, tout tremblant, et puis il me dit « Mais pourquoi vous faites ça ?» Je lui dis « Ben, ma vie a changé. J'ai rencontré Jésus, je suis devenu chrétien, et j'ai vu que je devais restituer, que je devais vous retrouver et demander pardon. » Et le gars, il a été complètement surpris, puis il m'a dit « Vous inquiétez pas. » Et puis il a demandé à la vendeuse de ramener le prix du fameux rasoir. Alors elle a donné un prix, et puis après elle a dit « Oh, je me suis trompé de ligne, c'était plus cher. » Et puis le directeur a dit « Ça va bien, c'est ce prix-là. » Et moi, j'étais heureux, parce que quand je suis sorti du magasin, j'étais plus rempli d'inquiétude, mais rempli de joie. Et vous savez, c'est le processus de Dieu. Au début, on peut être terrassé par une certaine forme de peur. Mais quand on marche avec Jésus, on se fortifie. Et quand on marche avec Jésus, nos craintes s'effacent et elles laissent place à l'action de Jésus. Et cette action de Jésus, elle vient pacifier nos cœurs, elle vient nous donner de l'assurance et elle produit en nous une joie que personne ne peut effacer. Et quand j'ai été dans l'aéroport, pareil, comme je me droguais, j'avais piqué plein de trucs et je me disais, ça y est, je suis foutu. Mais Dieu a fait en sorte que non seulement je n'ai pas eu affaire aux douanes, mais que le chef de sécurité me met à l'honneur et dit « Je vais vous citer comme le meilleur employé que l'entreprise a eu, je vous mets au tableau d'honneur ce mois-ci. » J'ai dit « Mettez-moi pas au tableau d'honneur, mettez plutôt Jésus. » Et elle dit « Non, 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 ça sera vous. » Mais quand je suis sorti, ma foi avait grandi. Et je ne marchais pas sur la terre, je marchais 50 cm au-dessus de la terre, là. J'étais rempli de la paix de Dieu. Dieu veut nous fortifier par la joie, par l'obéissance. Réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Alors, si vous avez des inquiétudes ce matin, ce message, c'est l'occasion pour les laisser sous vos pieds. Et ce message, c'est l'occasion pour vous laisser remplir de la plénitude de la paix de Jésus et de recevoir sa joie. Il y a un prophète dans l'ancien temps qui a cité un texte qui a été repris exactement par Jésus et il indique le plan de Dieu pour vous. Et ce prophète, c'était Ésaïe. Et il a dit ceci dans le chapitre 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Et c'est la pensée de Dieu, c'est qu'il veut porter de bonnes nouvelles afin de consoler les malheureux. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Quand vous êtes consolés, la joie vient. Amen. « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » J'aime bien l'huile de joie. Vous savez, moi, je suis infirmier et on passe des pommades. Vous savez, la première fois que j'ai rencontré mon beau-père, mon futur beau-père, il avait mal au genou. Moi, j'arrivais d'Afrique, ça faisait 2 ans que j'étais en Afrique. J'avais écrit une lettre où je disais « Cher monsieur, je crois bien que mes sentiments à l'égard de votre fille sont très forts. Je l'aime vraiment, je désire l'épouser. Permettez-moi de vous demander sa main. » J'étais très cliché, quoi. J'ai rempli la corbeille à papier de cette lettre, mais quelque part, quand j'ai vu la première fois mon père, il avait mal au genou. J'ai dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et alors ma femme a dit, mais on a de la pommade, tu vas lui mettre de la pommade, Jean. Alors, ce n'était pas ma femme à l'époque, c'était ma fiancée. Donc, j'ai massé le genou de mon beau-père avec la pommade pour la faire pénétrer, qu'il sente la chaleur, qu'il soit pénétré par l'effet du médicament. Ben, c'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. Il veut mettre une huile de joie. Et cette huile de joie, il veut la faire pénétrer en nous. Donc, il va prendre soin de nous. Il va prendre soin de nous. Il va nous mettre sur la table de massage et il va masser spécialement là où on a mal, là où on est dans la souffrance, mais avec une huile de guérison qui va provoquer en nous un soulagement et qui va amener en nous de la joie. Parce qu'on va dire, ah, enfin, je suis délivré de ces maux. Et c'est dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et ça nous donne de la force pour rebâtir sur d'anciennes ruines, pour relever des choses, pour changer des choses. Et Jésus lui-même a pris ce passage, il l'a lu dans la synagogue et il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et Dieu m'a oint, moi Jésus, pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté. » Et tout ça, c'est l'œuvre que Jésus est venu manifester sur la terre pour nos vies. Et il désire vraiment passer sur nous une huile de joie. Il désire briser en nous l'esprit abattu pour mettre à la place un cœur bien disposé. Et ces choses-là, elles sont dites pour nous. Vous savez, on peut être... Moi, j'aime beaucoup Joao, parce que quand il va au boulot, il m'a raconté, devant ses machines, qui sont des grosses machines bien bruyantes, j'imagine, il chante des cantiques. Et ses collègues de travail, dans l'atelier, ils disent « Ah, Joao est là, il apporte la joie ». Et quand il n'est pas là, ils viennent trouver Joao, quand il revient, ils disent ah, « Heureusement que tu reviens, tu vas nous apporter la joie. » Amen. Et Joao, quand il vient ici, il dit « Moi, je suis dans la joie parce que je viens dans la maison de Dieu. » Il y a de la joie. Et quand vous venez ici, vous pouvez être rempli d'une joie. Mais cette joie, ce n'est pas votre joie. Ce n'est pas vous qui allez la créer. Ce n'est pas vous qui allez la... Parce que quand on est dans l'inquiétude ou dans la peine ou dans l'épreuve, on ne peut pas dire « Oh, je vais être joyeux, super, extra. » Je me rappelle une fois, j'avais lu un bouquin sur la louange. Je vous l'ai dit, et puis le gars, il louait, il va chez le dentiste, il louait, le dentiste se convertit, il a pas mal, tout va bien. Moi, j'ai été chez le dentiste, j'ai loué, ben, j'ai eu mal, et puis tout n'allait pas bien. Alors une fois, comme ça, je rentre dans mon bain, paf, il était froid, pas de chance. Alors, je dis, je vais louer le Seigneur. Il va se passer quelque chose. Et puis au bout de 2 minutes que j'étais frissonnant dans mon bain, le Seigneur m'a parlé, enfin, alléluia. Il m'a dit, idiot, tourne le bouton d'eau chaude devant toi. Alors j'ai commencé à trouver le sujet de louange. J'ai dit, oh, il y a de l'eau chaude. Et j'ai été. On ne peut pas louer forcément pour des épreuves, mais on peut louer parce que Dieu a la solution. Parce qu'on peut se laisser remplir de Dieu. Et l'histoire de l'eau chaude n'est pas bête. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Le bain s'est réchauffé. Ah, merci. C'était magnifique. Et quand on accepte de faire confiance à Dieu, qu'on commence à ouvrir notre cœur à la prière, à ce moment-là, c'est comme si on tournait le bouton d'eau chaude. Il ne se passe peut-être rien au début, c'est encore froid. Et puis petit à petit, on sent qu'au bout des orteils, si le robinet est aux orteils, eh bien, l'eau commence à arriver, et puis ça réchauffe, et puis ça fait du bien. Ce n'est pas immédiat forcément, c'est progressif. Mais parce qu'on a accepté d'obéir, de prier, de dire sa peine au Seigneur, de dire « Mais Seigneur, c'est par toi, c'est par ta force, c'est par ta puissance que je peux recevoir quelque chose qui va changer ma vie. Tu l'as dit, Seigneur, ta promesse est vraie. Tu as dit que tu portais de bonnes nouvelles aux malheureux, que tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon cœur est brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté, je suis captif du péché. Aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce. Je veux recevoir cette grâce. » Et d'un seul coup, l'eau va couler sur vous. Parce que Dieu est plus puissant que toutes vos inquiétudes. Dieu est plus grand que toutes vos épreuves. Et il va vous garder. Une fois, j'étais en Afrique et ma fiancée m'a envoyé des livres extraordinaires. C'était des livres du style de personnes qui étaient... persécutées pour leur foi dans les pays communistes. Et c'était vraiment des livres où on voyait que le communisme, eh bien, enfermait les chrétiens dans des goulags, etc. Enfin, c'était des histoires affreuses. Et elle m'envoie ça. Moi, j'étais à ce moment-là au Congo, Brazzaville, qui était à ce moment-là marxiste-léniniste. Et c'est le seul colis que les douaniers ont intercepté. Et ils m'ont convoqué à la douane. Et quand j'ai vu les bouquins, oh, je me suis dit, je suis mal. Et ils commençaient à tourner autour du colis, à prendre un livre. Et j'ai dit, pourvu qu'ils ne lisent pas, Seigneur, qu'ils ne lisent pas le résumé. Puis d'un seul coup, sous les bouquins, il y avait, oh, extraordinaire, une boîte de chocolat. Et je vois le douanier qui pose le livre et qui regarde les chocolats. Et qui dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Alors il ouvre le couvercle pour être sûr que c'est bien des chocolats. Et puis devant moi, il en goûte. Ah non, ouais, bon, c'est vraiment un chocolat. Et puis je dis, bah, écoutez, si ça vous fait tellement plaisir, je vous les offre. Et alors là, ils étaient super contents. Ils ont pris la boîte de chocolat, ils m'ont donné les bouquins et moi, je suis parti. Dieu a toujours une solution. Dieu est le Dieu de grâce et nous fait du bien. Il y a un moment dans la Bible où le peuple d'Israël était dans les ruines et puis ils ont rebâti la ville, ils ont rebâti les murailles de Jérusalem et enfin toutes les murailles, le travail était fini. Et puis pour célébrer ça, les prêtres de l'époque ont pris la Torah, c'est-à-dire les Saintes Écritures, et ils les ont lues au peuple, mais ils n'ont pas fait que les lire, ils les ont expliquées. Et dans l'explication, tout le peuple a vu que, en définitive, ils n'avaient pas obéi à Dieu, ils s'étaient détournés de Dieu, ils avaient été inquiets, ils avaient été idolâtres, et quelque part, ils étaient attristés, et ils se disent « la colère de Dieu va venir sur nous ». Et à ce moment-là, ben, c'était dans le Néhémie qui parle et qui dit « Ne vous affligez pas, ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas parce que la joie de Dieu sera votre force. » Et j'ai beaucoup aimé ce passage parce que la joie de Dieu, elle a vraiment donné de la force au peuple d'Israël. Et la joie de Dieu, elle va vous communiquer de la force. Là où vous dites « je suis sans force, je ne peux pas traverser l'épreuve, je ne peux pas aller au-delà », la joie de Dieu va venir et vous donner sa force. Et c'est une des choses merveilleuses que la joie de Dieu fait. Que se passe-t-il quand on est sans force face à ses propres agissements? Eh bien, si on se tourne vers Dieu, Dieu pardonne, Dieu relève, Dieu console, Dieu donne sa joie. Et c'est une chose que on n'a peut-être pas envie de se réjouir dans ce moment-là. Pourtant, c'est un jour de fête. Et la joie, elle véhicule quelque chose de puissant. Elle libère quoi ? Elle libère l'espérance. Parce que d'un seul coup, on se rend compte que si Dieu nous pardonne, il y a une espérance qui est là. Et Jérémie, vous connaissez bien ce prophète qui dit Jérémie 29, 11, « Car les projets que j'ai formés sur vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de vous donner quoi ? Un avenir et de l'espérance. » Eh bien, pour chacun de nous, il y a un avenir rempli d'espérance. Et quand tu reçois ça, et que c'est vraiment une promesse que Dieu te fait à toi personnellement, la joie de Dieu, elle vient. La joie de Dieu, elle vient, et cette joie, elle produit en toi quelque chose de fort, l'espérance. Et cette espérance, qu'est-ce qu'elle fait ? Au lieu que tu sois sous le 36e paillasson, dans la poussière et dans la boue, elle te relève, tu te trouves debout, et tu te dis, mais alors, si j'ai un avenir, si Dieu me donne un avenir fait de paix et de joie, alors je veux marcher dans cet avenir. Vous savez, moi j'étais drogué, j'étais sans espérance, j'étais sans avenir, j'étais sans diplôme, et Dieu a permis que je repasse des examens, que je me mette au boulot. Ah oui, alors là j'ai bossé. Hein. Je crois qu'en 6 semaines, j'ai fait le programme de première et de terminale que je n'avais jamais fait pour passer l'équivalence du bac. Et bah, je dirais par la grâce de Dieu, hein, je suis tombé sur les bonnes questions. Et j'ai pas eu 17 sur 20 ou 19,5, j'ai eu 10,5. Mais c'était suffisant pour passer hop, et rentrer dans l'école. Et là, Dieu a ouvert pour moi et j'ai pu devenir infirmier. J'avais un avenir et de l'espérance. Extraordinaire. Et puis, il m'a donné une magnifique fille, femme, épouse, aide. Super. Le complément que j'avais besoin, parce que j'étais incomplet. Dieu, il s'arrachait les cheveux, il disait, oh, il faut que je trouve une aide pour Jean, parce que tout seul, il va faire que des bêtises. Et il a choisi Marie-Andrée, la meilleure. Je voulais une jolie fille, aux yeux bleus, magnifique, qui joue du piano, qui chante comme un rossignol, qui parle plusieurs langues, qui sache taper à la machine, à l'ordinateur, qui... je ne sais plus quoi, enfin. J'avais fait tout un plein de trucs, mais elle n'était pas blonde, elle était brune. Mais enfin, elle avait les yeux bleus. Et puis, elle n'avait pas tout ce que je demandais. Et heureusement, parce que devant une telle merveille, moi, je me serais complètement effacé sous la 6e carpette. Et il m'a donné exactement l'épouse dont j'avais besoin. Et Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Et il veut y répondre à la mesure qui va te correspondre. Et ça m'a rempli de joie. Et ça fait combien de temps, ma chérie ? 45 ?
Oui.
45 ans. Hein ? 45 ans qu'on est mariés. Et on a vécu des trucs pas faciles. Hein. Ça n'a pas toujours été le grand cœur, les petits coussins roses. Mon chéri, assieds-toi, je t'apporte ton journal, tout ça. J'aurais bien aimé, hein ? Mais je crois que je me serais un peu encroûté, hein ? Dieu, il a un projet et la joie véhicule l'espérance. L'espérance nous donne la force. Et la force, eh bien, elle nous permet de nous mettre en route. Ça fait bouger les circonstances et ça libère le bras de Dieu. Pourquoi je dis ça libère le bras de Dieu ? Est-ce que Dieu, il a les bras prisonniers ? Non. Dieu, il attend que une chose, tu te décides à marcher dans ses voies. Et quand tu te décides, alors il libère sa bénédiction. Parce qu'il ne peut pas faire sans toi. Il veut faire avec toi. Pourquoi Dieu avait-il créé Adam et Ève ? Parce qu'il voulait travailler avec eux. Il voulait une relation avec eux, une relation de joie. Il avait tout préparé pour eux. Le jardin d'Éden, les arbres, les fruits, tout. La terre magnifique. Et il a dit à Adam et Ève, cultive, vas-y, tu n'as plus que ça à faire. Donne un nom à chaque animal, je vais travailler avec toi, je vais te donner de l'intelligence et tout ça. Et puis Adam et Ève, ils ont raté. Ben, pas de chance. Et moi aussi, j'ai raté. Mais Dieu, il dit, je ne peux pas laisser Adam et Ève comme ça, je ne peux pas laisser Jean comme ça, je ne peux pas laisser Damien comme ça, je ne peux pas laisser Pascal, Didier comme ça, ce n'est pas possible. Je vais venir. Et il est venu sous la forme de Jésus. Et Jésus a dit, quoi ? Je vais mettre sur vous une huile de joie. Là où ça fait mal. Ah, je vais te guérir. Je vais chasser l'inquiétude. Je vais ouvrir un chemin nouveau pour toi. Ce n'est pas notre joie, c'est la sienne qu'il verse en nous. Alors j'aimerais vous donner plein de versets. Je ne sais pas quelle heure il est là. Moins 10, c'est ça ? Ouais ? D'accord. Il faut me dire quand il est midi, hein, parce que sinon, j'arrête pas. Vous savez ce que c'est un pasteur ? Ça cause, ça cause. Mais il y a un verset que je voudrais partager avec vous, c'est dans 1 Chronique 16, les versets 27 et 28. Et ça parle de Dieu, et ça dit « La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Et j'aime beaucoup ce verset parce que c'est une affirmation qui est posée, une vérité, mais elle suscite une réponse. La majesté et la splendeur de Dieu sont manifestées dans la présence de Dieu. Et tout à l'heure dans la louange, moi j'ai bien senti que pendant un moment, la majesté et le règne de Dieu étaient établis au milieu de nous au travers des louanges qu'on lui apportait. Sa majesté était là. Et qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse simplement ? Eh bien, qu'on lui rende gloire et honneur. Qu'on lui rende gloire et honneur. Et comment on peut rendre gloire et honneur à Dieu ? Eh bien, c'est qu'on se mette à part pour lui. Vous savez, Jésus nous a donné une prière, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. » Et que ton nom soit mis à part dans nos vies, qu'on puisse honorer ton nom, qu'on puisse se mettre à part parce qu'on t'appartient, que ton règne vienne sur la terre comme dans les cieux. Ça veut dire, sois le Seigneur de ma vie. Je veux me mettre à part pour toi et je veux que tu sois le Seigneur de ma vie, celui qui me guide. Parce que celui qui me guide, il va me donner la force. Il va me donner de pouvoir traverser les épreuves. Et dans notre Père, il y a « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». C'est sa force en nous qui va faire la différence. Il va nous donner la force. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin, ta voisine, tu lui dis, tu as la force de Dieu. Reçois-la. Amen. Reçois-la maintenant. Amen. Et ça, c'est quelque chose qu'on a... Vous allez retrouver la joie de Dieu, la force de Dieu, la joie de Dieu. Il y a une joie personnelle et il y a une joie corporative. Corporative, moi je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur » parce que là je retrouve mes amis, je retrouve mes frères et sœurs. Là, je sais qu'il y a une puissance de Dieu qui est là parce que tous ensemble on fait un corps et ce corps il est puissant. Et puis quand je reviens à la maison, je suis rempli de la force de Dieu. Et cette force, je dois l'entretenir. Et je dois l'entretenir comment ? En tournant mes yeux vers le Seigneur. En tournant mon cœur vers le Seigneur, en appelant sur ma vie sa plénitude, en me rappelant qui il est. Jésus est mon sauveur. Il m'a racheté de mon péché. Vous savez, quand je regarde ma vie de péché derrière moi, j'en ai quelques-uns, je n'ai pas envie de pleurer. Il y a des gens, ils s'écroulent en larmes parce qu'ils disent « Oh, j'étais malheureux, j'ai fait les pires bêtises, etc. C'est terrible, oh là là. » Et puis voilà. Mais moi, quand je me tourne derrière, qu'est-ce que je vois ? je vois l'amour du Père. Il m'a gardé. Il m'a protégé. J'allais être accro à l'opium. Et puis d'un seul coup, une saisie de drogue à Paris, plus un gramme d'opium. Et qu'est-ce qui se passe ? Une semaine après, je découvre l'amour de Jésus. Il m'a gardé. J'étais un gars qui était un évangéliste du haschich. Alors je vais retrouver un ancien copain que j'avais évangélisé au haschich. Et le gars, il me sort 5 kilos de haschich sur la table. Il était devenu un trafiquant. Et je me dis, mais Seigneur, c'est ma faute, la culpabilité. Et puis le Seigneur, il me prend, il relève ma tête et il me dit, c'est pas ton choix, c'est son choix à lui. Annonce-lui le salut. Et je lui ai annoncé le salut. Après, ça ne m'appartient pas, c'est sa liberté. Mais Dieu m'a dégagé de ce fardeau de culpabilité. Et j'avais la joie de Dieu quand je suis sorti de chez lui, parce que bien sûr, il m'avait enfumé. Lui, il avait fait le nuage de fumée, le calumet de la paix, comme il dit. Moi, j'avais essayé de lui faire le calumet de la vie. Mais quelque part, Dieu nous accompagne et nous permet de tenir fin. Soyons dans la joie. Le psaume 34, versets 7 à 10, nous dit « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Tourner les regards vers Jésus, c'est chercher sa présence, c'est trouver son appui, c'est nous attendre à lui. Et quelles sont les conséquences quand on tourne les yeux vers lui, qu'on cherche sa présence ? On découvre qui il est. Et il y a une chose qui se passe, il efface la honte de notre vie. Il efface la culpabilité de nos péchés. Parce qu'il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui notre honte. Il nous en a débarrassés. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, ça nous rend quoi ? Rayonnant de joie. Non pas une joie comme le monde la donne, mais une joie au très fond de notre âme, parce qu'on se sent libre, parce que pardonné. Et dans le psaume 34, toujours, c'est dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » On peut être pris par des épreuves, justes ou injustes, mais lorsque nous crions à lui, il entend et il nous envoie son secours. Il nous envoie sans secours. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, l'homme ou la femme. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. La joie de Dieu est notre force. Parce que cette joie, elle nous donne de l'espérance. L'espérance produit en nous la force. Elle nous permet de nous mettre en route, de marcher. Et on doit vraiment dire, Dieu est le Dieu de délivrance. Alors j'aimerais conclure, voilà, sur deux choses. La première, c'est qu'il n'y a maintenant donc aucune, vous le dites avec moi, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. On le redit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Paul continue, il dit, « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Amen. C'est une réalité. Quand je suis venu à Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, et je suis mort avec lui à la croix. Je suis mort. Et quand le diable vient me dire, t'es pas tout à fait mort, regarde, t'es encore tenté, Dieu n'a jamais dit qu'on ne serait pas tenté. Jésus lui-même a été tenté pendant 40 jours au désert. Mais quelque part, Jésus nous apprend, nous révèle, non, tu es mort avec moi à toutes ces choses. L'esprit que j'ai mis en toi, c'est un esprit de vie. Et par cet esprit de vie, tu peux faire mourir, tu peux ramener à la croix toutes ces tentations qui vont mourir aussi. Alors ça, c'est un autre message. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'aimerais juste finir avec le chant que vous aimez bien, c'est « Tu es fidèle ». Peut-être on pourra le rechanter d'ailleurs. Amen. C'est un chant qui me parle. Parce que c'était la conclusion du message. C'est que Jésus, eh bien, il est appelé fidèle. Il ne nous laissera jamais. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de comprendre. Alors, je cherche le passage où c'est écrit, parce que j'ai pris plein de... Voilà, c'est Apocalypse 19, 11. C'est la fin du livre de l'Apocalypse. J'aime bien le début, la Genèse et la fin, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Et dans la fin de la Bible, il y a un verset qui nous dit une qualité de Jésus, il est fidèle. Puis je vis le ciel ouvert, c'est l'apôtre Jean qui dit ça, celui qui a écrit l'Apocalypse. Et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et après, il y a tout le descriptif, et je vous encourage à le lire à la maison, de ce cavalier qui est en fait ni plus ni moins que Jésus. Il est appelé comment ? Fidèle et véritable. Jésus est fidèle, il est fidèle dans sa parole, il est fidèle dans ses promesses. Et ce qu'il a promis, c'est la joie, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est la maîtrise de soi, c'est la foi, c'est la fidélité, c'est toutes ces qualités-là. À nous de nous en emparer et à nous d'être des chrétiens qui nous laissons remplir de la joie. Vous savez, quand on regarde la sortie d'une église, on voit si c'est une église morte ou si c'est une église vivante. Hein ? Si les gens sortent avec une tête comme ils sortent de chez le dentiste, vous pouvez vous poser la question sur la vitalité spirituelle de l'église. Si les gens sortent avec la banane, c'est que vraiment il y a la joie de Dieu. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que pour chacun de vous, eh bien, il y a une joie. Il y a vraiment une richesse dans la joie de Dieu qui est possible de ranimer. Du temps de l'époque de Néhémie, où ils étaient encore dans les ruines, où ils ont juste rebâti la muraille, la joie de Dieu est venue. Et ça a été une grande force pour eux. Et ils se sont mis à marcher avec Dieu et ils ont rebâti l'intérieur de Jérusalem. Et Dieu leur a donné vraiment la révélation de toutes les bonnes paroles. Ils ont laissé de côté leur désobéissance, leur péché. Ils ont demandé pardon, mais ils se sont relevés et ils ont marché. Et leur avenir leur appartenait. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin encore une dernière fois. Et puis tu pries pour son avenir. Ouais, priez les uns pour les autres maintenant. Ton avenir t'appartient. Confie-le à Jésus. Confie-le à Jésus, tu vas grandir. Tu vas grandir avec Jésus. La joie va venir. Elle est là. Reçois-la. Ce n'est pas ta propre joie. C'est la joie qui vient du ciel. C'est la joie qui vient du ciel. Laisse-toi guérir. J'applique sur toi maintenant, non pas une huile médicamenteuse, mais une huile de joie, afin que toi et ta maison, vous soyez dans la joie. Vous soyez guéris. Vous soyez restaurés. Amen. 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 Bien que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien, vous édifie et vous donne un avenir fait d'espérance et de joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Amen.